Bonjour, mes frères et mes sœurs, dans le Messie Yeshua. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse et vous garde, et nous garde tous, et nous donne la force de persévérer jusqu'à la fin des temps, ou jusqu'à ce que la trompette sonne. Je voudrais saisir cette occasion simplement pour faire une brève réflexion sur la discussion que Yeshua a eu avec la femme samaritaine dans Jean 4. Je voudrais parler du temple. Voilà, donc c'est une idée, une idée qui m'a traversé l'esprit. Je pense, en tout cas, je vais faire un commentaire là-dessus. Donc, d'abord, la Bible nous dit d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Donc, ne rejetez pas en bloc ce que je vais dire, mais examinez-le et voyez s'il y a une once de vérité dedans. Donc, je lis. C'est la femme qui parle, en tout cas, dans ce dialogue. Nos pères ont adoré sur cette montagne. La femme samaritaine, je vous informe, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, que les Samaritains existent toujours. Et que le groupe, en tout cas la communauté samaritaine, a des prêtres, et qu'aujourd'hui en Israël, ils immolent toujours la Pâque avec un agneau sur une montagne à Jérusalem. C'est la montagne de le mont Garizim, je pense. Hein. Ils font brûler, ils font consumer l'agneau, comme dans les anciens temps. Ils le font toujours. À chaque Pâque, ils immolent l'agneau, toujours. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voilà, Jérusalem. Je lis la version messianique. C'est une version messianique qui vient de sortir du Nouveau Testament. Femme, lui dit Yeshua, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Yerushalayim que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Yehoudim, des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont des adorateurs comme ceux-là que le Père demande. Ra Elohim, c'est-à-dire Dieu. Le Ra, c'est un article, voilà, c'est comme le Dieu, voilà, c'est le Dieu. Ça devait se traduire par le Dieu. Ha Elohim est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc je profite aussi de l'occasion pour vous faire connaître certains termes hébreux. D'accord, voilà. Voilà. Donc je voudrais faire un commentaire sur le temple, parce qu'il y a une proportion aujourd'hui de beaucoup de communautés chrétiennes de construire des temples, et les uns les autres rivalisent d'ingéniosité ou d'ardeur pour bâtir des temples splendides. Alors que Yeshua ici dit quelque chose de capital, que en résumé vous dire que ce n'est même pas sur cette montagne ni à Jérusalem, parce que l'Éternel Dieu est infini, il est esprit. Il occupe, il dépasse tout l'univers. Vous voyez, il dépasse tout. Il est le seul infini. Il dépasse tout l'univers. Donc, on ne peut pas se fixer un lieu simplement pour l'adorer. Je m'explique. Je ne sais pas quand est-ce que les temples ont apparu, mais je ne pense pas que dans les premiers siècles, les chrétiens, les disciples et ceux qui les ont suivis ont bâti des temples. Je pense que les temples, je ne sais pas, hein, bon, vous me corrigerez par rapport à l'histoire, que les temples ont dû apparaître vers le 3e siècle, ou bien le 2e, en tout cas après le 1er siècle, quand même et que ces temples sont une imitation des temples païens, ou des temples païens plutôt, ou des temples grecs, que ces temples sont venus par la paganisation du christianisme, ou bien par le syncrétisme du christianisme. La preuve, la plupart des temples de l'Église universelle sont bâtis sur d'anciens lieux païens, sur d'anciens temples païens, sur les ruines d'anciens temples païens ou d'anciens lieux de culte païens. Ce qui montre même l'esprit qui est derrière l'érection de ces temples-là. Mais néanmoins, nous voyons que après la réforme, les protestants l'ont suivi, les catholiques, les baptistes, les évangéliques, tout le monde veut avoir son temple, tout le monde veut avoir une salle. Et aujourd'hui, c'est à la mode. On enseigne les frères et sœurs de donner, de faire ceci, de faire cela. On pousse les gens à donner pour bâtir des temples qu'on n'utilise qu'une ou deux fois par semaine, vous voyez. Donc, mais malgré cela, le réveil s'est étiolé, quoi. En tout cas, la majorité de cette communauté ne vivent pas néanmoins le réveil. Je pense qu'il y a une explication de cela, parce que même si je vois comment a évolué beaucoup de communautés chrétiennes qui avaient d'abord commencé par un mouvement de l'esprit, hein, vraiment, même quand on prend l'Église méthodiste, la communauté méthodiste était la communauté de Wesley, c'était avec le feu de l'esprit. Mais comment se fait-il que cette communauté s'est complètement éteinte et que cette communauté est devenue maintenant une religion, l'apparence, quoi, voilà, devenue l'ombre d'elle-même. De la même, beaucoup de communautés avaient commencé par un mouvement de réveil. Et lorsque ces communautés n'ont pas encore un lieu fixe pour, disons, célébrer leur culte, n'ont pas de ciel, n'ont pas ceci, il y a un réveil, il y a un feu, il y a un zèle qui animait ces personnes-là. Et puis après, lorsque ces personnes s'établissent, c'est fini. C'est fini. Le feu s'éteint. Le zèle s'éteint. La recherche vraiment de Dieu, la consécration, la sanctification s'éteint. Pourquoi cela? Donc je me suis posé cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées ou de communautés de réveil, c'est l'orthodoxie, quoi. On gère, on inaugure les chrysanthèmes, c'est tout, on gère. C'est quelque chose aussi qui était arrivé à Israël, parce que l'Éternel a dit quelque chose que lorsque, je ne sais plus dans quel chapitre, que l'Éternel, que Israël a regimbé, il a mangé, il est devenu gras et il s'est éloigné. Il s'est éloigné de l'Éternel Dieu. Je vais chercher le verset pour voir. Je ne sais pas dans quelle partie ça se trouve. Je ne sais pas. Voilà. C'est Deutéronome 32, le verset 15. Israël est devenu gras et il a regimbé. Il est devenu gras, épais et replet. Il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Voilà, on va garder ça à l'esprit. Et également, il y a aussi quelque chose ici que Yeshua a reproché aux Juifs, parce que quand le temple a été érigé, les Juifs de l'époque avaient plutôt une forte considération pour le temple que des fois même pour la loi de l'Éternel Dieu. C'est ce que Yeshua leur reprochait, que ils sont plus ancrés à obéir à leur tradition qu'à la parole de Dieu. Et Et ils disent qu'ils sont, ils font des, ils font des référents généalogiques. Oh, c'est le temple. C'est comme si l'éternel Dieu habitait dans le temple. C'est comme s'ils ont capturé l'éternel Dieu. Je m'explique, même dans Jérémie. Jérémie a dit, voilà, ne vous livrez pas à des expériences trompeuses. Lorsque Nebuchadnezzar attaquait Jérusalem à l'époque en 586, il faut dire que le premier temple a été détruit en 586. Vous voyez, les Israélites ne pensaient pas que Nebuchadnezzar allait détruire le temple. C'est comme il ne pouvait pas pénétrer là-bas parce que l'Éternel Dieu est là-bas. Mais l'Éternel Dieu s'était déjà éloigné de ce à cause de la désobéissance du peuple. Et Jérémie leur disait, ne vous livrez pas des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. C'est répété trois fois. Trois fois. Et curieusement, lorsque l'on voit ce qui va se passer au rétablissement de tout, lorsque la Jérusalem céleste va descendre des cieux, curieusement, il n'y aura plus de temple. Apocalypse 21, le verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Mes frères et sœurs, écoutez. Donc, nous voyons que cette parole de Yeshua est d'actualité. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui ou bien les communautés s'acharnent à construire des temples, à construire des bâtiments grandioses, des méga churches, à dépenser de l'argent, à faire ceci, à faire même un temple digital, vraiment on rivalise. Des milliards d'euros ou bien de dollars. À quoi ça sert, mes frères et sœurs? Or, Yeshua nous dit que les vrais adorateurs, que ce sont qu'ils adorent en esprit, en vérité, parce que Dieu est esprit. Ce n'est pas ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, ni ailleurs, mais c'est en esprit, en vérité, parce que partout où vous vous trouvez, partout où se trouvent un ou deux personnes, une ou deux personnes qui croient en Yeshua, bien qu'ils se réunissent au nom de Yeshua, il est au milieu d'eux. C'est pour cela que le mouvement de l'esprit est plus présent dans les églises organiques que dans les églises bâtiments. Je m'explique encore, parce que quand un mouvement est organique, n'a pas de bâtiment, n'a pas de temple. Je vous dis qu'il y a un zèle qui les a. Les gens cherchent vraiment Dieu. Les gens sont là à chercher Dieu en petits groupes, en petites communautés. Les gens sont là, ils se réfèrent à l'Éternel. À Yeshua est leur point de repère. Yeshua est leur point de repère. Parce qu'ils ne regardent pas au temple. Parce que dans ce temps, lorsque le temple a été construit à Jérusalem et qu'après, les choses se sont étiolées, que les Israélites se sont détournés de Dieu, malgré que la présence de Dieu n'était plus dans le temple, mais les gens se référençaient toujours au temple. C'est comme si ils avaient capturé Dieu. Vous voyez, le temple, c'est comme s'ils avaient capturé que Dieu est là-bas. Il doit être là-bas, il est assis là-bas. Mais non. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de mouvements lorsque l'on quitte une organisation organique, une organisation de petites communes, comme faisaient les apôtres avant, parce que les apôtres n'ont pas bâti de temple. Paul n'a pas bâti de temple, n'a pas encouragé à bâtir un temple. Ils se réunissaient dans des maisons, même au bord des rivières. Ils se réunissaient même dans la forêt. Je me souviens aussi de cette expérience-là. Comment nous sommes réunis sous un arbre pour prêcher la parole, pour faire notre réunion. Et vraiment, on sentait vraiment. Je ne dis pas que lorsqu'on se réunit sous un arbre, ainsi de suite, que la puissance de Dieu est là. Non, je ne dis pas ça. Mais néanmoins, il y a un phénomène psychologique qui se crée lorsque un mouvement parvient à ériger un temple. C'est comme si ils ont mis Dieu dans la boîte. C'est comme si Dieu est là-bas. Non, l'éternel Dieu n'est pas là-bas. La Bible nous dit que l'éternel Dieu n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes. Comprenons cela. C'est-à-dire que tout ce que dit Yeshua est vérité. Comprenons cela. Ce n'est pas métaphorique, mais c'est la vérité puisqu'il est la vérité, mes frères et sœurs. Je pense que l'une des causes de la rétrogradation, de la diminution de la puissance de Dieu, c'est ça. C'est les chrétiens ne regardent plus à Yeshua, mais ils regardent à leur église bâtiment. C'est ce que beaucoup de gens croient. Chaque dimanche, les gens disent qu'ils vont à l'église. Ils vont à l'église pour faire quoi? Retrouver Dieu. Retrouver Jésus. Vous voyez, c'est comme si Jésus habite là-bas. C'est son adresse. C'est comme s'il habite là-bas, que l'éternel Dieu. C'est comme s'ils ont capturé, enfin, l'éternel Dieu. Ils l'ont mis là-bas. Donc, il est là-bas. Il les attend, mes frères et sœurs. C'est faux. Vous voyez? Le temple est devenu la référence. Le temple, l'église bâtiment, remplace Yeshua, remplace la vie de l'esprit. Je me trompe peut-être, mais c'est la réflexion que je me fais que la rétrogradation, la froideur qu'on a observée chez beaucoup de mouvements chrétiens, qui une fois sortis même de la clandestinité, vous voyez, lorsqu'on leur donne l'autorisation de s'établir, ces mouvements baissent en puissance, en réveil, en zèle et en tout. Et tous les mauvais côtés qu'on voit dans le monde se voient dans ces communautés. Parce que tout le monde veut être le chef, tout le monde veut être ceci, veut être cela, veut prendre des postes, ainsi de suite. Il y a une organisation hiérarchique qui s'établit. Donc, l'esprit n'est plus là. On remplace l'esprit par des symboles. C'est ce qui s'est passé dans la grande église. L'esprit a été remplacé par une bougie, la lumière d'une bougie. Vous voyez? Eh oui, c'est ce qui s'est passé. Donc, je me dis, hein, je peux me tromper, que la froideur, la diminution du zèle ou du réveil qu'on observe aujourd'hui, c'est à cause du fait que voilà, beaucoup de gens ont l'Église, ces communautés avant qui cherchaient Dieu, qui étaient prêts à mourir même pour Dieu, dès qu'ils ont reçu l'autorisation de l'autorité politique gouvernementale pour s'établir, pour être reconnu officiellement, c'est fini, ils ont construit leur bâtiment d'Église, ainsi de suite. Voilà, ils se rendent dans une sorte d'orthodoxie. On chante, on vient, on prie, ça devient formel, quoi. On formalise les choses, ainsi de suite. C'est fini. Alors que lorsqu'on vivait dans la clandestinité, on n'avait pas un lieu où se poser, ainsi de suite. Chacun cherchait, chacun est zélé pour Dieu, cherchait vraiment Dieu. Voilà, en esprit et en vérité. Malgré cette parole, les chrétiens aujourd'hui veulent construire des temples un peu partout. Alors que, à la fin des temps, ces temples vont disparaître, ces temples vont être détruits, ces temples, on ne pourra plus les utiliser parce que l'anti-messie va en prendre possession, ou bien tous ceux qui iront seront persécutés, liquidés, seront vite repérés, mes frères et sœurs. Voilà, donc ça, l'inutilité de ces temples-là nous a été prouvée par la crise de coronavirus, puisqu'on ne pouvait plus se rassembler. Mais on pouvait se rassembler à deux ou à trois dans des maisons, n'est-ce pas, mes frères et sœurs. Donc, je me dis que cette parole de Yeshua doit être pris en compte. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, ni dans l'église bâtiment, mais Dieu est esprit. Là où deux ou trois sont, il est au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux. Et l'un des problèmes de la rétrogradation, de la froideur qu'on voit dans beaucoup de mouvements, beaucoup de communautés chrétiennes qui avaient commencé par un zèle, un mouvement de l'esprit, se trouvent dans le changement de paradigme, dans le changement de référentiel. Ce n'est plus Yeshua qui est le point de mire, qui est la référence, mais c'est leur église bâtiment. L'apron dit qu'on va à l'église, alors que nous sommes l'église, c'est les pierres vivantes, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et la preuve que ces temples-là sont inutiles, la Bible nous dit que dans la Jérusalem céleste, il n'y a pas de temple. Et que l'Éternel Dieu et l'agneau sont quoi? Le temple. Et Jérémie, à l'époque, avait averti les Israélites, disant, ne dites pas que oh, c'est le temple de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel. Ne vous trompez pas. Nebuchadnezzar est venu, il a détruit le temple, il a pris ce qu'il a, parce que le temple vivant était sale. Le temple vivant qui est constitué des Israélites était sale. Ce temple-là ne fonctionnait plus. Ainsi, le temple physique fait de pierre a été complètement détruit. L'une des clés du réveil se trouve ici. Il faut que nous changeons de référentiel. Il faut que nous changeons de paradigme dans les communautés chrétiennes. Parce que les gens maintenant regardent à leur église bâtiment. C'est comme s'ils ont capturé. Enfin, nous avons capturé. Nous avons mis dans une boîte. Yeshua ne peut pas être mis dans une boîte, mes frères et sœurs. D'accord? Revenons à l'ancienne religion, comme disait cette chanson. Donne-moi l'ancienne religion. Donne-moi l'ancienne religion. Revenons aux anciennes bornes, mes frères et sœurs. À partir de Yeshua, les choses ont changé. Il a dit, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais c'est par l'Esprit. Nous n'avons pas besoin de... Changeons de référentiel. J'ai vécu une expérience pour illustrer ce que je suis en train de dire. C'est qu'un jour, je priais. J'avais l'habitude. Bon, peut-être c'est mon expérience et peut-être que vous ne la partagez pas. J'avais l'habitude de prier avant de manger pour le repas. Je demande au Seigneur de sanctifier le repas, de bénir le repas, ainsi de suite. Et puis, c'est comme si j'avais une voix quoi, qui m'est venue comme ça, mais ce n'est pas le repas qu'il faut bénir, mais c'est celui qui te l'a donné. Et je trouve que c'est vrai. Nous aimons l'œuvre du Seigneur, mais nous ne voulons pas le Seigneur de l'œuvre. Voyez, nous bénissons le repas, nous le sanctifions ainsi de suite, mais nous ne bénissons pas celui qui l'a donné. Voyez, nous ne considérons pas celui qui l'a donné. Voyez, c'est ça au fait. C'est le Seigneur que nous devons bénir d'abord, et c'est le sens de la prière du Seigneur Yeshua qui l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà, c'est là où il faut commencer. Le commencement, c'est lui. C'est Yeshua, c'est le Père. C'est le Père. Il a dit, priez le Père à mon nom. C'est le Père que nous devons bénir. C'est lui que nous devons bénir pour le repas. Et le repas, si nous bénissons le Seigneur, même si nous ne prononçons pas la formule, bénis le repas, ainsi de suite, le repas sera sanctifié, sera béni, et rien ne pourra nous nuire, mes frères et sœurs. Yeshua doit être le centre de notre vie, de notre adoration, de tout. Notre référence, c'est lui, c'est pas le bâtiment de l'église. Je pense que cette conception a entraîné beaucoup de froideur, beaucoup moins de zèle chez beaucoup de frères et sœurs, parce que on va à l'église le dimanche et le reste du temps on peut faire ce que l'on veut, puisqu'on se dit Dieu ne nous voit pas, nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Or c'est le dimanche que nous retrouvons Dieu dans le bâtiment. Or c'est pas vrai. Dieu est esprit. Nous sommes dans sa présence, constamment dans sa présence, mes frères et sœurs. Donc moi je pense que nous devons faire le minimum pour trouver un lieu de rassemblement. On n'a pas besoin qu'on ait des chaises relaxantes. On n'a pas besoin d'avoir ceci, d'avoir cela, de construire des bâtiments gigantesques, digitales, ainsi de suite, avec des lumières, avec ceci, cela. C'est vrai que l'Éternel Dieu est un roi et qu'il faut l'honorer et qu'il faut lui et qu'il faut, le lieu où les frères et sœurs se rassemblent doit être propre, doit être correct. Mais d'abord, c'est notre cœur qu'il veut, mes frères et sœurs. Donc, je pense que l'un des problèmes du refroidissement de l'Église, ou bien du manque de zèle, ou bien de la baisse du mouvement de l'esprit, ou du réveil dans certaines communautés, c'est lié à ça. Quand elles étaient dans la clandestinité, quand elles étaient dans la souffrance, ah oui, voilà, le zèle, la prière, le jeûne, ainsi de suite. C'est ce qui se passe en Chine. Les églises officielles, rien du tout. J'ai vu une vidéo d'une église officielle avec la photo du dirigeant chinois dans le bâtiment. Vous comprenez? C'est l'église officielle, l'église chrétienne officielle. Alors que les églises clandestines ne cessent de grandir, où il y a un mouvement de l'esprit, il y a le zèle, parce qu'ils n'ont pas de bâtiment, ils n'ont rien. Le seul point de mire, c'est Yeshua. C'est ce que la Bible nous dit. Il est le chef de la foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. Donc, détournons nos regards de nos lieux de culte, de ces bâtiments, et regardons à Yeshua. C'est lui le vrai temple. C'est lui le vrai temple, c'est ce que le livre de l'Apocalypse vient de dire. Que voilà, c'est lui le vrai temple, parce que beaucoup de communautés sont passées par cette étape lorsque l'Éternel disait aux Israélites que Israël est devenu gras. Voilà. Ah oui, vraiment, maintenant nous sommes autorisés à avoir pignon sur rue, à tenir nos réunions, à faire ceci, cela. Maintenant, c'est bon, nous sommes arrivés. On dit ouf de soulagement et on baisse les bras. Maintenant, nous avons le bâtiment. Nous pouvons inviter les gens à venir dans le bâtiment, ainsi de suite. Et on évangélise plus, on ne prie plus, on ne fait plus ceci. On dit on va à l'église le dimanche, on fait notre orthodoxie et puis c'est bon, et puis c'est bon. Gloire à Dieu. On s'en va, alléluia, et on revient encore un autre dimanche, ainsi de suite, et la vie continue. Vous voyez? Je pense qu'il y a il faut qu'on change de référentiel. Donc, je me trompe, hein, peut-être, mais c'est le commentaire que ce verset m'a suscité. Donc, c'est cette réflexion que je me suis faite. Donc, retournons vraiment à une vraie adoration en esprit et en vérité, en esprit et en vérité. Regardons à Jésus. Aimons le Seigneur de l'œuvre avant d'aimer l'œuvre. Si nous avons le Seigneur de l'œuvre, nous aurons l'œuvre. Mais si nous avons l'œuvre, nous pouvons ne pas avoir le Seigneur de l'œuvre. Nous pouvons avoir un bâtiment magnifique et ne pas avoir Yeshua avec nous. Mais si nous avons Yeshua, nous avons tout. Nous avons tout, puisque nous rentrons même dans le temple céleste. Voilà. Nous rentrons puisque Yeshua est le temple. Le Père est le temple. Je relis ce verset. Je relis encore ce verset. Apocalypse. Je ne vis point de temple, Apocalypse 21-22, de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu, ouais, le mot Seigneur encore ici remplace l'Éternel. Au fait, c'est l'Éternel Dieu, c'est-à-dire le tétagramme Elohim. Donc, c'est le tétagramme Elohim, l'Éternel Dieu. C'est les deux dimensions de Dieu, la dimension justice Elohim et la dimension miséricorde. Le pardon qui est l'Éternel. Et le pardon vient avant la justice, avant la rigueur. Vous voyez, avant la rigueur, l'Éternel Dieu. Car l'Éternel Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau, mes frères et sœurs. Que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous garde. Voilà, si vous avez des remarques ou bien quelque chose à dire à propos de cette réflexion, je les prendrai pour m'instruire également. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen et Amen.